Tu vois, Mermet, ton émission, tout aussi formidable qu'elle soit, a ses limites, que tu connais bien d'ailleurs. Dans tous les sujets, quels qu'ils soient, que tu traites, il y a la forme et il y a le fond. Ton combat, c'est d'ouvrir la porte qui entrevoit le fond. Ce fond, alors Alain Rey s'en donnerait à cœur joie d'ailleurs, le fond, c'est le fondement. Le fond, c'est le fini de l'infini. Le fond, c'est ce qu'on aimerait voir, mais qui reste caché. Ton émission sur la chanson de Krohn, elle remue les tripes. Elle va au-delà de la simple forme médiatique. Elle va au-delà de cette larme qui coule. Car elle nous fait poser la question, la grande question existentielle. Pourquoi ce passage sur cette terre? Pourquoi l'homme reste-t-il un prédateur pour l'homme? On nous dit que nous sommes le sommet de la chaîne de vie, oui. Alors, pourquoi nous entretuons-nous? Le fond que l'on ne peut pas voir ne serait-il pas la cause de notre esclavage? C'est comme si une chaîne de vie supérieure jouait au dé avec notre race adamique. Mais franchement, notre conscience est-elle prête à affronter cette hypothèse? Qu'est-ce qui fait que nous sommes limités dans notre propre liberté de pensée? Nous sommes formatés, émetteurs, récepteurs, sur une certaine longueur d'onde. Continue, Mermet. Ta fréquence dérange, certes. Elle brouille les consciences, oui. Mais au fond, on en a grandement besoin. C'est Bernard de Lirton en Belgique.
Ouais, salut, c'est Jojo. Je sais pas si vous avez vu, là, il y a des mobilisations là, étudiantes contre la loi d'autonomie des universités, là. Et donc là, aujourd'hui même, donc vendredi, je lis dans lemonde.fr un article de Philippe Jacquet, puisqu'il faut le nommer, comme quoi, en fait, cette mobilisation, ça serait que l'extrême-gauche, etc. Enfin, faut être débile, quoi. Monsieur, je pense que ce Philippe Jacquet, il a aucune culture politique, ni historique, ni sociologique. Comment l'extrême-gauche pourrait mobiliser les universités, quoi? L'extrême-gauche et quelques dizaines de personnes. Faut vraiment être débile. Mais ça sert quelque chose, ce truc-là. Ça sert uniquement à relayer la propagande gouvernementale et ça sert à tenter de décrédibiliser en fait un mouvement social. Voilà, dès qu'il y a un mouvement social, il faut le décrédibiliser parce que c'est mal. Alors, contre quoi se bat ce mouvement social? Mais contre quelque chose qui est hyper simple. La loi d'autonomie des universités, elle transforme complètement la place de l'université dans les bassins locaux d'emploi. Elle dit une chose. L'université aura l'autonomie, donc il faudra qu'elle aille chercher à l'extérieur ses financements. Et chercher à l'extérieur, c'est chercher les financements, c'est les chercher là où il y a de l'argent. Et où il y a de l'argent, ben dans les entreprises. Et il s'agit dès lors, comme dit le journal Capital, que le président de l'université se transforme en chef d'entreprise. Et l'idée, c'est complètement de reconfigurer la place de l'université, à savoir, est-elle au service du citoyen, de l'esprit critique, du savoir collectif, du bien commun, ou est-elle au service des intérêts privés? Il n'y a pas besoin d'être sorti de Polytechnique pour comprendre ça, quoi. Sauf que dans lemonde.fr, on ne nous explique pas du tout cette loi. On ne nous informe pas, on ne nous rend pas plus intelligents. On nous dit, ben, c'est l'extrême-gauche, quoi. Mais je pense que faut être débile, quoi. Faut être débile pour que le journalisme en soit tombé aussi bas, quoi. Vraiment, c'est bas, c'est bas, c'est bas.
Oui, bonjour, un étudiant au téléphone qui se joindra bien évidemment cette semaine écolo de balade à pied en centre-ville. Donc, mon message s'adresse à tout le monde, hein, et en particulier aux usagers de la SNCF et de la RATP, aux usagers compréhensifs et solidaires, et aux usagers nettement moins compréhensifs et nettement moins solidaires. J'anticipe un peu sur la scène sociale qui s'annonce, parce que j'entends déjà, comme il est souvent dit, oui, les usagers sont pris en otage, c'est inadmissible, vous prenez en otage des gens, et c'est pas bien de prendre des gens en otage, parce qu'on prend pas des gens en otage, non mais... Alors je voudrais commencer par rassurer tout le monde, ils vont pas mourir quand même, hein. Non seulement ils vont pas mourir, mais en plus tous les usagers, j'insiste bien, voyagent lorsqu'il y a grève gratuitement, parce qu'il n'y a bien sûr aucun contrôle des jours de grève. Vous imaginez facilement le tollé que cela pourrait soulever chez les usagers. Mais en plus, les abonnés de la SNCF et de la RATP pourront bénéficier d'une réduction de leur abonnement sur le mois prochain jusqu'à 50% en fonction de la durée de la grève. Se renseigner sur les toutes petites lignes des règlements des entreprises respectives, parce que c'est pas souvent rappelé au JT quand même. Donc, j'insiste, je répète, hein, une réduction sur l'abonnement du mois suivant. Quant aux usagers occasionnels de la SNCF et de la RATP, eh bien, ils continueront d'être occasionnels et se déplaceront comme ils le font le plus souvent. Voilà, j'espère que les usagers qui sont habituellement pas solidaires et pas compréhensifs, qui seront beaucoup plus solidaires, même si j'y crois pas trop, mais au moins peut-être moins hargneux. Merci.
Bonjour. Alors, petit proverbe à méditer à celles et à ceux qui ont voté Nicolas. Les électeurs oublient que lorsqu'ils s'abaissent à regarder le derrière des immigrés, le leur s'ouvre plus grandement à moi. Signé Nicolas Sarkozy. Au revoir.
Bonjour, j'ai été très interpellée par les deux émissions sur Crown. Alors, je voudrais rectifier quelque chose dans l'émission d'hier. Il n'y avait pas que les paysans, les agriculteurs bretons qui étaient appelés dans cette ignoble boucherie, mais il y avait également les ouvriers normands. Mon grand-père, avec ses deux frères, je donne le nom, Levasseur, c'est un nom très courant, en Normandie, de Caen, sont morts tous les trois à Craon. Et l'on dit pudiquement le chemin des dames, enfin, vu mon âge, je connaissais Craon, et je suis absolument subjuguée par le fait que vous ayez exactement retranscrit ce que j'entendais familialement. Alors je suis très 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 heureuse que maintenant ce soit connu. C'est comme l'émission qu'il y a eu hier soir à la télévision sur le général de Gaulle et le Parti communiste, ça honore la France. Merci beaucoup et à bientôt.
Tu vois, Mermet, ton émission, tout aussi formidable qu'elle soit, a ses limites, que tu connais bien d'ailleurs. Dans tous les sujets, quels qu'ils soient, que tu traites, il y a la forme et il y a le fond. Ton combat, c'est d'ouvrir la porte qui entrevoit le fond. Ce fond, alors Alain Rey s'en donnerait à cœur joie d'ailleurs, le fond, c'est le fondement. Le fond, c'est le fini de l'infini. Le fond, c'est ce qu'on aimerait voir, mais qui reste caché. Ton émission sur la chanson de Crown, elle remue les tripes, elle va au-delà de la simple forme médiatique. Elle va au-delà de cette larme qui coule, car elle nous fait poser la question, la grande question existentielle. Pourquoi ce passage sur cette terre? Pourquoi l'homme reste-t-il un prédateur pour l'homme? On nous dit que nous sommes le sommet de la chaîne de vie, oui. Alors, pourquoi nous entretuons-nous? Le fond que l'on ne peut pas voir ne serait-il pas la cause de notre esclavage? C'est comme si une chaîne de vie supérieure jouait au dé avec notre race adamique. Mais franchement, notre conscience est-elle prête à affronter cette hypothèse? Qu'est-ce qui fait que nous sommes limités dans notre propre liberté de pensée? Nous sommes formatés, émetteurs, récepteurs, sur une certaine longueur d'onde. Continue, Mermet. Ta fréquence dérange, certes. Elle brouille les consciences, oui. Mais au fond, on en a grandement besoin. C'est Bernard de Virton en Belgique.
Oui, bonjour. Une réaction par rapport aux émissions sur la guerre de 14. Daniel Mermet, il dit que c'était aussi une occasion pour le capitalisme de se débarrasser de trop de monde suite à l'industrialisation. Je trouve que c'est intéressant de le mettre en parallèle avec le fait aussi que les mouvements sociaux, l'international, les accords entre les ouvriers allemands et les ouvriers français, à travers des personnes comme Jean Jaurès, comme Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, étaient très très puissants à cette époque. Et que la guerre de 14-18 a aussi été une manière de mettre un terme à cette dangereuse entente. Voilà, merci pour les émissions. Au revoir, c'était Jean-Philippe. Au revoir.
Oui, salut Daniel. Je voulais te passer un renseignement généreux qui te concerne parce que tu as été gravement mis en question par ton ami Alain Finkielkraut dans l'émission Le Zapping de France Inter ce samedi 10 novembre. Parmi les déclarations complètement folles dingues, il y avait, il était dit par Alain Finkielkraut que finalement l'abolition de la peine de mort n'était pas forcément une bonne chose, fermez les guillemets. Et puis après, bah, il t'a fait ta fête, quoi. Grosso modo, t'es tant pis, t'en es un, voilà. Et l'émission, bien sûr, a été mise en cause d'une façon très forte. Je conseille de réécouter cette émission, donc Nos Amis de France Inter, du samedi 10 novembre, de Mathias de Guette. Il a dit tellement d'énormités que, bon, mais je ne comprends pas qu'on invite un pareil personnage pendant 2 heures sur une antenne nationale, voilà. Salut, et c'était Jean-Pierre, et amitié.
Voilà, je suis Christian Frouin, du Mans, un ex-parigo, j'ai fait la guerre d'Algérie, je viens de réentendre la chanson de Caen. J'étais insoumis pendant la guerre d'Algérie, je suis très très ému. J'ai essayé de parler, de faire savoir dernièrement avec le film Ennemi Intime, mais on peut dire que les lycées, les radios et tout le monde semble vouloir ignorer, ces insoumis de la guerre d'Algérie. Voilà. Et j'ai 69 ans, plus c'est toujours très présent et voilà, et j'étais marié à un enfant. Mais je prenais le risque d'y aller, j'ai seulement osé montrer et dit ce que je pensais de cette guerre. Voilà, contre les tirailleurs algériens et marocains qui m'ont libéré à Lyon. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'émotions et voilà quoi. Excusez-moi. Merci beaucoup quand même.
Bonjour, Marie des Terres dans le département du Nord. J'appelle simplement pour dire que je n'oublie pas les poilus morts à la guerre ou qui ont dû continuer à vivre avec ces souvenirs. Il est des événements tellement épouvantables qu'ils continuent à résonner à travers les années, les lieux et les gens. Je suis née 50 ans après la fin de la Grande Guerre et pourtant c'est un événement qui est toujours présent dans mon département. Nous avons aussi subi de plein fouet la Deuxième Guerre mondiale, mais elle n'a pas eu un impact aussi douloureux. Et à vous, mes ancêtres, mais pourquoi n'ai-je pas l'impression qu'une telle catastrophe humaine ne puisse se reproduire?
Oui, allô, j'entends tous ces messages ici à Bogota, je suis en direct avec vous depuis Bogota, et j'écoute tous ces messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, et je vous remercie, chers AMG, chers auditeurs modestes et géniaux, de ces rediffusions, revues et corrigées par l'équipe de là-bas, si j'y suis, de ces émissions que l'on vous a proposées il y a 10 ans, en 1997, à nouveau, on remuait profondément cette mémoire française. Un mot sur l'émission de samedi, au cours de laquelle Alain Finkielkraut a rien d'extraordinaire, a montré son état avancé de médiadépendance. C'est quelqu'un qui est comme une sorte de junkie, qui a besoin de sa dose permanente et quotidienne. C'est là-bas si j'y suis, qui, comme vous le savez, est une émission à la fois islamiste, terroriste, misogyne, antisémite, dogmatique. Simplement une chose en matière de dialogue et de débat, sans aucun dialogue et sans aucun débat, le 31 mai 2002, Alain Finkielkraut s'était précipité au tribunal pour témoigner contre moi dans l'espoir de me faire condamner pour incitation à la haine raciale. Et si la condamnation était intervenue, évidemment, c'était ma place à Radio France qui s'en trouvait compromise, largement compromise. Les espoirs ont été déçus, comme celles de ses amis, et ils ont été déboutés dans ce procès comme dans d'autres. Tout ça, c'est des histoires quand même assez des bagarres de bac à sable. Et on va parler d'otages, si vous voulez, parce que avec la semaine sociale qui s'annonce, il va être grandement question d'otages. Une partie des Françaises et des Français vont être pris en otage. Et ici, il y en a quand même aussi des otages en Colombie. On a rencontré Yolanda, la mère d'Ingrid de Betancourt, assez étonnante quand même, la voix de cette femme, comme celle de toutes les familles d'otages qui, dans la nuit de samedi à dimanche, sur une radio, envoient des messages, un peu comme vous d'ailleurs, mais sauf que elle s'adresse ses voix à des disparus, des séquestrés, des otages qui, peut-être, espère-t-il, dans la jungle ou quelque part en Colombie, les écoutent. Ce qui est dommage dans tout ça, c'est que l'émotion est si forte, la figure de la mère d'Ingrid Betancourt Yolanda est si forte dans sa figure de Mater de Lorosa, qu'on oublie que derrière tout cela, il y a évidemment un contenu, un message politique. Et pour ce qui concerne Yolanda, une critique très acerbe de la politique de son pays et une dénonciation très acerbe également des mouvements paramilitaires et de la parapolitique de ce pays. De tout ça, on parlera à notre retour. Aujourd'hui, on reste à nouveau avec les bulletins et les insoumis de 1917. On va à Tauves, dans le Puy-de-Dôme. On va retrouver la voix de la famille Dauphin qui souhaitait, qui espérait que Joseph Dauphin fut réhabilité. Ça n'a pas été le cas et les Dauphins, dont Mathilde Dauphin, ont aujourd'hui disparu. C'est notre thème du jour. Salut de Colombie, à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis avec Raïssa Blankoff et le caporal Dauphin, Joseph.
Flight number 2, arriving from New York.
Avait-il chanté la chanson de Craon, le caporal Dauphin, cette nuit de juin 1917, dans le charnier pourrissant du chemin des dames, où de petits messieurs crevaient la gueule ouverte? A-t-il été fusillé pour avoir chanté? On voit le poteau, le bandeau, la croix, le curé, l'officier des guêtres bien cirés, son revolver au bout d'une chaîne à la main, guettant les doigts sur les gâchettes. Celui qui ne tue pas sera tué. Caporal Dauphin Joseph, fusillé pour l'exemple et par ses copains au petit matin. Peut-être n'a-t-il pas même fredonné. Aujourd'hui, suite à la chanson de Craon, voici l'histoire d'un de ces mutins qu'évoque cette auditrice. C'est le caporal Dauphin. Une histoire oubliée de l'histoire, un mort par la France. Adieu ma chère femme, adieu mon enfant. Il avait un enfant, ce caporal Dauphin, un fils décédé maintenant, mais qui toute sa vie a souhaité la réhabilitation de son père. Aujourd'hui, ses neveux volent, rêvent de la réhabilitation de cet homme pour la justice et pour l'honneur. Aujourd'hui, 80 ans après, cette histoire est toujours un enjeu de mémoire. Cet homme, innocent, dégradé, fusillé, ne fut jamais réhabilité. Et cette histoire fait partie de celle qui brûle toujours. Elle fait partie de ces braises insoupçonnées et têtues, ces braises qui racontent la France, la profonde, celle de la terre et de la justice et de l'honneur d'un petit homme. C'est en Auvergne, c'est en automne, un automne doré, rouge et jaune sur ciel d'ardoise. Il y a un soleil qui frise, les sommets enneigés, c'est très beau. Et on rêve de poté au chou et de fromage bleu. Et puis on arrive à Tauze, 1000 habitants. Il y a une place où Jacques Tati aurait pu tourner jour de fête, sauf que c'est pas la même fête aujourd'hui, c'est le 11 novembre. Monument aux morts, gerbe déposée, sonneau disposé avec le fil jusqu'au haut-parleur, drapeau tricolore, pompiers alignés, papier du discours bien plié dans la poche de Monsieur le maire, qui se tient bien droit à côté du garde champêtre en attendant la clique. C'est la France qu'on aime, c'est la France qu'on est. Notable, boulanger, retraité, ancien combattant au pogne de paysans, c'est les gens. Et autour, la place, l'église, la mairie, les petits commerces, les deux bistrots, une scène, une scénographie, un rituel qu'il faudrait voir avec l'œil qu'on a pour le rituel du Kawa au Vanuatu, ou la célébration vaudou dans l'ex-royaume du Dahomey, ou bien la célébration du retournement des morts au sud de Madagascar. Un œil neuf, soudain, qui nous dit que la République est une idée. Mais peut-on entonner aujourd'hui encore, comme ces hommes-là, un Français doit mourir pour elle, un Français doit mourir. Novembre, à Tauves, Auvergne, aux armes, etc.
Merci à la clique. Les personnes invitées au rang d'honneur sont priées de se rendre au Pangite et au Lion d'Or.
Adieu mon enfant. Adieu ma femme, 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 adieu mon enfant.
Dein treuer Husar, der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr. Die treuer Husar, Der liebt sein Mädchen ein ganzes Jahr, ein ganzes Jahr und noch viel mehr.
C'est 14-18 et là c'est 39-45.
Il n'y a pas de. Vous avez des morts de l'Algérie
ici? On n'en a pas ici. On n'en a pas. Dans les communes voisines, il y en a, mais ici, on n'en a pas. Et pourtant, il y avait une forte participation à la guerre d'Algérie. D'ailleurs, ils sont. Combien ils sont à la section d'anciens AFN?
35.
Oui, oui.
35, oui.
Enfin, c'est quand même la saignée, c'est la guerre de 14. Hein.
Oh, ah oui, c'est incroyable.
C'est fou.
Sans cesse, non.
Il y a plusieurs raisons qui expliquent que les communes rurales ont été très frappées et qu'il y a eu beaucoup de morts. C'est qu'il y avait beaucoup de nos jeunes qui partaient à ce moment-là, qui étaient dans l'infanterie ou dans les chasseurs alpins. Autrement dit, dans les armées qui ont payé.
Les premières lignes.
Les premières lignes.
C'est ce qu'on mettait devant, quoi.
Les chasseurs alpins, là, il y en avait pas mal ici.
Et on sait où est-ce qu'ils ont le plus trinqué, sur quelle bataille, sur quelle...
Oh, ils ont trinqué partout.
Partout, ouais.
Ils ont partout. Ouais. Enfin, il faut bien reconnaître que comme partout ailleurs, ça a été quand même la grosse saignée, ça a été Verdun.
Verdun et le chemin des dames.
Le chemin des dames, ils en parlent toujours. Vous savez, j'avais mon grand-père qui avait fait les 5 ans, moi, mais il parlait encore à son décès, il parlait encore du chemin des dames.
Il y a des générations qui oublieront. Moi, je fais partie. Mon père était ancien combattant. Il était au régiment quand la guerre s'est déclarée. Il a fait toute la guerre jusqu'en, de 1913 à 1919, 6 ans sous l'uniforme. Alors, vous savez, pendant mon enfance, j'en ai entendu parler de la guerre. Vous savez, j'ai davantage entendu et appris sur la guerre de 14 en entendant mon père raconter tout ça qu'en lisant les manuels d'histoire. Moi, je me rappelle, depuis tout gauche, j'ai toujours assisté au 11 novembre, parce que mon père y allait. C'était peut-être la seule fois où il allait au chef-lieu de la commune, puisqu'on habitait en dehors du chef-lieu, mais c'était sacré pour lui, le 11 novembre, ça, il
c'est la France, là, c'est la République. C'est
oui, des... il avait fait la guerre.
Ils avaient fait la guerre, et on pense à eux chaque 11 novembre. Et dans cette France qui est la nôtre, dans ces campagnes, ces petites villes de France, comme à Tauves, là où nous sommes, en Auvergne, eh bien, cette cérémonie réunit tout le village, tout le bourg, et ranime et renvoie à des pères, des grands-pères, des arrière-grands-pères, à des histoires de nœuds de famille, à des histoires de terre. Et c'est toute une guirlande comme ça de braises qui se rallume ce jour-là. On aurait grand tort de ne pas faire attention à cette fête. Oui, c'est parce que c'est la fête de l'armistice. Quand j'étais môme, ça s'appelait la fête de l'armistice. À cette célébration, en tout cas, qu'est le 11 novembre. Alors, ce qui nous intéresse, nous, ici à Tauves, c'est l'histoire du caporal Dauphin qui fut fusillé, pour l'exemple, en 1917, à la suite des fameuses mutineries de 17. En quelques mots, je vous rappelle ce qui s'est passé. 16 avril 1917, la fameuse attaque du chemin des dames, qui a été un échec, une défaite et une boucherie sans nom, 35 000 morts dans la seule matinée du 16 avril, 35 000 hommes français, du côté français, ont été abattus, ont été tués, c'était épouvantable. En tout, on pense qu'il y a eu 150 000 soldats français qui ont été tués dans cette offensive ratée. Et à la suite de cette défaite, eh bien, les hommes se demandent des permissions, mettent la crosse en l'air. Il y a des mutineries dans les trois quarts de l'armée française, notamment dans les grandes unités qui combattent sur le front. On entend crier « Vive la Révolution !» On entend crier « Vive les Russes !» On entend crier « À Paris !» On entend chanter « L'International !» On voit des hommes, des unités arborer le drapeau rouge, et on entend surtout chanter, murmurer, fredonner, parce qu'elle est absolument interdite, la fameuse chanson de Craon, sur laquelle nous avons fait trois émissions. Alors voilà, et la réaction à ça sera très dure de la part de l'état-major. Il y aura des jugements sommaires, des hommes pris au hasard, des fusillés qui seront fusillés pour l'exemple, par leurs propres copains, par leurs propres amis, et parfois même, et c'est le cas ici où nous trouvons à Tauves, par des copains du même village. Brugière bébé, Brugière François, Brugière Jean, Brugière Marcelin. Ça, c'est votre famille?
Non, mais c'est les frères. Et ce Brugière François, dont on parle dans les coupures de journaux, on l'avait désigné pour fusiller notre homme, qu'il n'a pas voulu.
Alors, attendez, vous voulez dire que...
Brugière François.
Brugière. Brugière avait été nommé pour fusiller votre
oncle. Il était dans le même régiment, ils étaient ensemble, et il voulait que ce soit lui qui le fusille. Il n'a jamais voulu. Alors il l'a envoyé, je ne sais pas où il est mort, il savait qu'il ne durerait pas longtemps. Quoi. Où il l'a envoyé, c'était le bagne, quoi.
Alors peut-on rendre à un homme les honneurs alors qu'il n'a jamais perdu le sien? C'est un peu l'histoire de ce caporal Dauphin qui avait un fils. Ce fils est décédé maintenant, mais ce fils voulait que son père fût réhabilité. Ça n'a pas été le cas, ça a été rendu impossible, mais aujourd'hui, les neveux, la famille, les descendants de ce caporal, des gens âgés, vous allez les rencontrer, sont très attachés à ce que cet homme soit réhabilité, parce que c'est juste et pour son honneur. Vous avez quel âge, monsieur Dauphin?
J'ai commencé les 85.
Il a eu 84 au mois de septembre.
Vous êtes drôlement en forme, hein? Superbe.
Les jambes vont pas bien, comment?
Ah, ça commence à plier un peu.
Ça commence.
Et vous, madame Dauphin?
Eh bien, j'ai eu les 80 au mois de juin. Moi, je commence les 81.
Mais vous êtes en forme, tous les deux, hein?
On se soutient l'un à l'autre.
Si j'ai les pieds sur la table, on me voit comme ça. On croirait pas que j'ai cet âge-là, bien sûr. À part les cheveux blancs.
Et vous êtes tous les deux natifs de Tauves?
Ah, moi, je suis né à La Rode, mais c'est toujours le canton de Tauves.
Et vous êtes de Tauves, monsieur?
Moi, j'ai toujours habité à Tauves.
Mais tu y es né?
J'y suis né. J'y ai habité, sauf que j'ai fait 18 mois chez Michelin avant la guerre. Après, j'étais prisonnier, je me suis évadé, et on a pris une ferme.
Et puis après, il a été nommé facteur.
Moi, j'ai fait 30 ans de facteur. Et dans la montagne, où il tombait beaucoup plus de neige qu'aujourd'hui. Alors, les 7 dernières années, on avait la voiture.
Théoriquement, c'était à pied?
Ah oui, 30 km en moyenne.
Chaque jour?
Et oui.
Alors, en arrivant dans chaque ferme, il fallait poser le sac, boire un coup?
Non.
Ouf, allez.
Ah non, oh non, non. Ouh. Je vous le dis franchement, j'avais deux maisons. Que j'ai soif ou pas, il fallait boire un demi-verre. Parce que la patronne m'avait dit, ça me verse si vous ne buvez pas. Alors là, je buvais un demi-verre. Mais après, un bonbon ou un petit morceau de gâteau, des fois, oui.
Et en route?
Et en route, je suis jamais rentré avec la cuite.
Jamais?
Ah, une fois.
Une fois?
Mais c'était pas de ma faute.
C'est vrai ça, madame Dauphin? Une fois?
C'était pas de ma faute.
Elle s'en souvient même pas.
Oui, mais c'était le général de Gaulle qui avait dit qu'il fallait faire grève de 11h à midi. Eh bien, on a posé les sacs.
Pourquoi le général de Gaulle vous avait demandé de faire grève?
Ah, c'était à cause de la guerre d'Algérie.
C'était la fin de la guerre d'Algérie.
Ah. Oui, et alors, on a posé les sacs à 11 heures, mais il y avait 15 cafés dans le bourg, là.
15 cafés?
Et j'ai pas pu finir. J'ai pas pu finir dans la tournée.
Bon, un poulain.
Oh,
moi,
je
descendrai
bien là-bas, il y a plus de place, mais c'est trop
long
pour moi.
C'est
ça nous
fait plaisir
que nous mangeons
avec nous,
la maison.
Oh.
Simple, hein. Hein. Ah, pas simple, hein.
Oui,
non,
on ne veut pas vous déranger.
Mais ça nous dérange pas, mais ça sera
ça. Ça nous fera plaisir. Mais je vais partir en premier, je vais aller éplucher les pommes de terre.
C'est vous qui allez éplucher les pommes de terre?
De grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de rouge. La charrue est en bois d'érable et l'aiguillon en branche de houx. J'aime Jeanne, ma femme, j'aimerais mieux la voir mourir que de voir périr mes bœufs. C'est grâce à eux qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. Ils gagnent plus dans une semaine que d'argent ils ont coûté.
Brugière François a refusé en 1917 de tirer sur Joseph Dauphin. Il a dit: la balle ne sera pas pour celui qui est devant moi, mais pour celui qui, derrière, me commandera de tirer. Et à la suite de ça, il a été envoyé aux travaux forcés dans les bataillons d'Afrique et il est enterré à Orléansville. Et son neveu...
Orléansville, c'est où?
En Algérie. Et son neveu pense qu'il est mort en 17, qu'il y est resté très peu de temps. Et son neveu vit à Tauve, c'est un coiffeur retraité.
Et son nom, il a son nom sur le monument aux morts.
Il a son nom sur le monument aux morts. Et il y a deux frères qui sont morts à la guerre, qui sont aussi sur le monument aux morts. Et il y en a un qui doit être mort mort des suites de la guerre. Mais il n'a jamais été reconnu comme mort à la guerre, celui-là.
J'ai deux grands bœufs dans mon étable, chante Madame Dauphin. Ce serait pour ça que le caporal Dauphin, selon les histoires et ce qui a été écrit sur lui, très peu de choses qui ont été écrites sur lui, c'est parce qu'il avait chanté ça, il avait bu un petit coup, dit-on, il avait chanté ça, et voilà, ça suffisait à être considéré comme un mutin, comme quelqu'un qui était contre la patrie, contre la France, et ce serait pour ça qu'il aurait été injustement fusillé.
Ah, écoutez, l'histoire du caporal Dauphin, moi, elle est très facile à raconter. Je sais qu'il a été fusillé, hein. Injustement, certainement, parce que bon, on avait dit qu'ils avaient refusé de marcher. Vous savez bien, quand on en a par-dessus la tête, hein, il faut l'avoir vécu pour comprendre ça.
Et alors, il n'a jamais été réhabilité, en fait.
Il n'a jamais été réhabilité. Je crois que c'est un peu de la faute de son épouse, je crois. C'était une femme, vous savez, cette pauvre femme, moi, je le comprends. Ça l'a démolie, cette femme. J'ai toujours entendu dire qu'elle avait refusé qu'il soit réhabilité.
Pourquoi elle a refusé? Qu'est-ce que ça l'a démolie, on le comprend?
Eh bien, oui, mais vous savez, c'est une femme d'abord du caractère. Hein. Vous savez, elle était... Hein. Attention, hein, c'était pas... Comme on dit, c'était une maîtresse femme. Elle était vraiment peut-être un peu trop autoritaire.
Ouais. Alors pourquoi elle s'opposait à la réhabilitation de son mari? Parce qu'elle avait la conviction qu'effectivement il avait désobéi ou...
Je ne sais pas, peut-être ça. Je ne sais pas. Parce que bon, certainement elle n'a pas été réhabilitée. Elle ne touchait pas de pension.
Ah, bah bien sûr.
Oui, bien sûr.
Donc c'était un dommage.
Ah, ben oui, c'était dommage pour elle et pour son fils, quoi. Et si elle avait laissé réhabiliter son mari, je pense qu'il aurait été réhabilité, moi, je ne sais pas, moi. Son fils n'aurait probablement pas fait de régiment, comme orphelin de guerre, je pense, hein. Et il n'aurait pas fait les 5 ans de captivité, hein, parce qu'il a fait les 5 ans. Il a été libéré, lui, à la fin de
44, hein, fils, hein. 45.
Ah, 45, oui.
Et est-ce qu'il est trop tard pour le réhabiliter aujourd'hui, ce caporal?
Je ne sais pas, moi. Ouais. Peut-être, pour l'honneur, pour...
Ben oui.
C'est triste, hein.
C'est une histoire triste.
Ah, vraiment, hein. Vous savez, c'est, C'est triste. Adieu ma femme, adieu mon enfant, puis...
Seuls des 49 mutins officiellement fusillés, ce chiffre étant très très contesté par beaucoup d'historiens, sur ces 49, un seul a été réhabilité, Bernard Mouliat, à la suite de certaines démarches, je crois d'une émission de télévision il y a quelques années. Mais le caporal Dauphin n'est pas réhabilité, et c'est l'idée, la fidèle idée de ses descendants, notamment Monsieur et Madame Dauphin, qui vous avez entendu et nous a invité à déjeuner. On a passé vraiment un moment très agréable. Hein. C'est l'Auvergne, c'est Tauve, ça s'appelle. Et c'est vraiment des gens agréables et qui font très bien. Madame Dauphin fait très bien la cuisine. Et donc, on évoque la figure de ce caporal.
Vous voyez ça? Vous représentez un peu?
Oui, il voulait que...
Attaché à un poteau, les yeux bandés et les mains derrière le dos, et savoir que à 5-6 pas de là, il y a les copains qui vont me tirer dessus. Hein? Les dernières minutes, là.
Mais à quoi on pense? À quoi on doit penser à ce moment-là? Hein?
À la famille.
Ouais,
on pense à la famille, mais les copains pour tirer dessus. Il faut qu'ils aient du courage aussi. Parce que vous savez... Hein? Et puis j'étais obligé de marcher, sinon c'est eux qui passaient. Étant jeune, jamais chez moi, j'en ai entendu parler, on ne nous en parlait pas à nous. On ne nous parlait pas de ça. Il y a ma cousine Imelda qui a 10 ans plus que moi, eh bien, elle me disait que chez elle, on n'en parlait jamais, on en parlait quand les gosses n'étaient pas à la maison. Autrement, on n'en parlait jamais. Ce qui fait que j'étais grand, moi, quand je l'ai appris, je crois, par un livre, peut-être même. On n'est pas sans famille.
Et pourquoi donc? Parce que c'était une honte?
Parce qu'ils n'aimaient pas parler des décès aux enfants.
Ouais.
Est-ce que vous... Et surtout, là, c'était peut-être un peu la honte, comme vous dites.
Ouais, c'est ça.
Ils avaient peur que les gens parlent au moins. Moi, je n'allais pas encore à l'école, puisque je suis née en 17.
Ouais.
Et bien, j'ai toujours entendu parler, mes parents, le pauvre Joseph Dauphin. Il ne méritait pas ça. Il est sûrement innocent. Il était jeune, il était brave. Voilà tout ce que j'entendais dire.
Oui.
Tout le temps.
C'est ce qu'on entendait dire, mais est-ce qu'on vous disait comment il était mort?
Ah oui, on m'avait dit qu'il avait été fusillé par les Français.
Ah, fusillé par les Français.
Ah oui. Et il y a un brugière de Puy-Germont qui était avec lui. On voulait qu'il tire sur lui. Il n'a jamais voulu. Ça, je l'ai toujours entendu, gamin. Et c'est ce François Brugière qui est donc mort, je ne sais pas si c'est en Afrique, je ne sais pas où. Ils l'ont envoyé dans un régiment où ils savaient qu'il ne vivrait pas longtemps.
Parce qu'il a refusé de tirer sur son...
Sur son follet, sur son copain. Ils ouais. étaient de la même commune de Tauve. Ils se connaissaient bien. Et il n'a jamais voulu tirer dessus. Et le voilà, le Joseph
Dauphin. Oh, c'est un tout petit médaillon. Avec une minuscule photo ça, en noir et blanc, et c'était un chasseur, parce qu'il a le grand béret des chasseurs.
Ben c'est là,
c'est un beau gars.
Donc, son épouse qui me l'a laissé.
Et ça,
avec
c'est...
ça.
Et ça, c'était un médaillon.
Oui, sûrement.
Que les femmes devaient garder hein, pour elles.
Sa femme ça, a dû le faire faire quand il a été mort. Elle devait avoir cette photo.
Oui, oui, oui.
Et elle a fait faire le médaillon.
Qu'elle devait porter autour du cou.
Oui, je pense.
Ah, mais vous amenez des tas de souvenirs, des tas de papiers, des tas de vieux articles qui sont dans cette pochette de tissu.
Ah, j'ai...
Ça, c'est une croix de guerre.
C'est sa croix de guerre qu'il a eue en 1915.
Ah oui, avec les palmes.
Ah oui.
Oui. Mais... Alors, il a eu donc cette croix de guerre en 1915. C'est très, très touchant parce qu'il y a la croix avec l'épingle, mais d'épingle à nourrice pour l'accrocher au revers. Vous l'avez connue, sa femme?
La femme du caporal?
Oui.
Ah oui, je l'ai gardée à la maison.
Oh, vous n'avez pas l'air d'avoir un bon souvenir.
Ouh, comme si. Caractère. Bien, regardez, je lui pardonne tout. Parce qu'elle était vraiment méchante. Méchante.
Elle voulait rester, comment on pourrait dire moi, renfermée peut-être sur elle-même, de ce drame, disons.
Comme si elle avait honte
de tout ça, qu'il soit été fusillé.
Elle s'était, je vous dirais, comment, révoltée contre les Français, contre la France.
Oui,
d'ailleurs,
c'est ça.
Elle nous avait toujours dit, elle a toujours dit, parce qu'on passait les veuves de guerre devant le monument à leur mort.
Ouais.
Elle avait dit surtout qu'on ne me passe pas au monument.
Avec son cercueil, elle voulait pas être, être présentée, parce que ici à Tau, sur la place, on a la mairie, on a l'église, on a le monument aux morts autour de la place.
Oui.
Et donc les veuves des morts à la guerre de 14.
Oui. On les passe devant le monument, on fait une minute de silence devant le monument.
C'est ça, en hommage à leur mari mort. Et elle avait demandé qu'on...
Ah non, qu'on le fasse pas.
Elle a jamais pardonné ce geste barbare vis-à-vis de son mari. Voilà, et elle s'est révoltée là, elle s'est renfermée sur elle-même, et moi je crois que c'est ça.
Donc pour elle, demander la réhabilitation, ça aurait été comme une humiliation.
Oui, voilà. Dire.
C'est ça. Alors, ça, là, on a une lettre qui a été adressé le 24 juillet 1917 par l'aumônier militaire qui a assisté à l'exécution du caporal Dauphin et qui s'adresse au curé du village ici. Qui s'adresse au curé de Tauves.
Oui.
Alors, il lui dit, j'ai eu en effet la douloureuse mission d'assister le pauvre caporal Dauphin au moment de son exécution. Et je suis heureux de pouvoir vous donner l'assurance qu'il est mort en bon chrétien. Ce pauvre garçon a été évidemment victime de la propagande criminelle qui a été faite à ce moment-là, en France, aussi bien sur le front qu'à l'arrière, en faveur d'une paix immédiate à tout prix. Propagande qui semble aujourd'hui enrayée, mais qui s'est manifestée alors par des tentatives de grève à l'intérieur et de rébellion dans l'armée. Est-ce que, selon vous, croyez que votre parent était quelqu'un qui avait un esprit de rébellion, qui...
Oh non, je crois pas.
Non, c'était quelqu'un de courageux. D'ailleurs, s'il a eu les décorations et deux citations, c'est pas quelqu'un qui voulait se rebeller.
Il n'était pas méchant, il n'était pas révolutionnaire, non.
Oui, ça vous pensez, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça précisément?
De la façon que son fils m'en parlait, des fois. Elle me disait qu'il avait toujours eu mal au cœur parce que sa mère n'avait jamais voulu demander la
réhabilitation.
C'est ça.
Est-ce qu'on a douté de lui? Est-ce que les gens se sont dit, ah oui, il n'y a pas de fumée sans feu, s'il a été exécuté, c'est qu'il y a une raison?
Non, ça, j'ai jamais entendu parler comme ça.
Ouais,
non, jamais. Ouais. Il y a juste un paysan qui est mort. Je sais le nom que je dirai jamais, puisque le cousin Michel m'a dit, vous n'en parlerez à personne. Un jour, je sais pas, il discutait avec ce paysan. Ce paysan lui répond, après tout, t'es quel fils d'un fusillé?
Parce que bien sûr, il n'y a pas de fumée sans coup de feu. Et même si cet homme était évidemment, de toute évidence, innocent, fusillé par exemple, eh ben c'était quand même un déshonneur pour la France, c'était un déshonneur pour sa famille, un déshonneur, et c'est sans doute pour ça, on croit comprendre que l'attitude de sa femme était bien celle-là, de ne même pas demander sa réhabilitation, puisque cet homme était innocent. Il y a quelque chose là de l'ordre de la dignité, de l'honneur jusqu'au bout, et il y a quelque chose qui ne plie pas, qui ne plie jamais. Dans des endroits où on ne s'y attend pas, évidemment, des gens sans décoration, sans qui ne sont pas dans les allées des justes et qui la ramènent pas auprès des arcs de triomphe, qui sont des gens très très modestes, mais qui ont ce sens là de l'honneur et de la dignité. Le maintien de la discipline, l'autorité militaire a dû sévir avec une grande rigueur et faire des exemples. Ce qui a été cause de la sévérité de la peine du caporal Dauphin, ce sont ses galons. Il était le seul gradé à ce moment-là parmi les hommes qui ont manqué gravement à la discipline. Et au lieu de s'efforcer de les arrêter, il les a, paraît-il, excités. Quand je lui ai demandé comment il avait pu se laisser aller à cela, il n'a pu me répondre que deux choses. J'avais bu, et puis on nous avait monté la tête, et je n'ai pu savoir quel était ce mot.
ça, c'est évidemment le plus étonnant, c'est la lettre envoyée par par l'aumônier de ce régiment, aumônier qui a assisté à l'exécution et qui adresse ce courrier au curé de Tauves et qui dit il comprenait bien que sa faute était grave et nécessitait un châtiment. On reste évidemment perplexe.
Vous aujourd'hui, en clair, vous voudriez quoi ? Vous voudriez, pour la mémoire de son fils,
oui,
pour la mémoire de son fils, que les autorités publiques accordent la
réhabilitation, si c'était possible.
Oui.
Si c'était possible.
Alors, ce député auquel vous faites allusion, il s'appelait Henri Andros, ce gars-là, et il a publié un petit fascicule édité par le journal La Montagne, le journal du coin, oui, le journal de Clermont-Ferrand, hein, oui, qui s'appelle Sous les balles françaises. Il insiste bien, c'est bien clair, il ne prend pas de gants. Les crimes des cours martiales, et il fait allusion à 5 fusillés, Chapelain, Dauphin, donc votre parent, Marcel, Turgis et Waterloos, qui furent des fusillés innocents. Des fusillés innocents, quoi. Hein. Et il adresse ce petit fascicule aux vivants qui veulent entendre, exactement ce que vous essayez de faire aujourd'hui. Et sur le dos du livre, là, de cette petite brochure écrite par Henri Andros, donc le député de l'époque, il y a une croix de bois, hein, oui, les fameuses croix de bois de ces pauvres gars-là.
Oui, de tous.
Il n'y a pas de nom sur la croix, il y a écrit « mort en lâche ». Hein ?
Oui. Seulement, maintenant, il a été transporté au cimetière bleu.
Oui.
Cimetière bleu, c'est à côté de Reims.
Uh-huh.
Ah bon ? On a été sur sa tombe, nous.
Uh-huh.
Et il est bien porté caporal Dauphin, mais il n'y a pas...
Mort en lâche, il n'y a rien de restrictif.
Il a un numéro, voyez, c'est la carte du cimetière.
Ah, voilà la carte postale du cimetière de Maison Bleue.
Oui.
Oh là là, un champ de croix.
Oh là là. Il y a des allées. Je ne me rappelle plus de son numéro, mais il y en a
884.
Un, il pourrait être celui-là.
Oui, numéro 884. Moi, je me demande quand même si ce à quoi vous tenez, c'est quand même que son honneur soit rétabli. Oui. Mais c'est un petit peu comme si c'était votre propre honneur, un peu l'honneur de votre famille et de votre nom.
Oui, un peu, oui. Mais c'est pour Michel, moi, c'est pour Michel.
Oui.
Son fils, vous voulez dire.
Oui. C'est ses dernières volontés, moi, c'est pour ça.
C'était une nouvelle diffusion du reportage de Daniel Mermet. Ça date d'il y a 10 ans, du 26 novembre 1997 déjà. Merci beaucoup à Mathilde et Célestin Dauphin, aujourd'hui disparus, et à Raïssa Blankoff de l'équipe de La Basse Jésuite qui avait participé à la préparation de cette émission. Toutes les informations, vous le savez, sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse si j'y suis. À la technique, aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé et Yann Bouillot. Réalisation Yann Chouquet et Coy Nguyen. Et puis pour les répondeurs, c'est à Charlotte Perry qui, il faut dire merci, Charlotte Perry qui s'occupe d'écouter vos messages au 01 56 40 37 37. C'est le numéro du répondeur de La Basse si j'y suis.